il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis: rien, 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 rien ne vaut la vie. Rien ne vaut la vie. Il a vu l'espace qui passe entre la jet set, les faces, les palaces, et puis les techniciens de surface. Espère dans les clochers, les monastères, voir le vieux sergent Pepper, mais ce n'est que Richard Jacques. Il est entré comme un insecte sur site internet, voir les gens des sectes, et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis: rien, 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 rien ne vaut la vie. D'argent, comme la vie c'est détergent, et comme ça nettoie les gens.
La vie ne vaut rien, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, rien, rien ne vaut la vie.
Il a joué jeux interdits pour des amis endormis, la nostalgie, et il a dit:
la vie ne vaut rien, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, rien, rien ne vaut la vie.
La vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis: rien, 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 rien ne vaut la vie. La vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis: rien, 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 rien ne vaut la vie, rien ne vaut la vie, rien ne vaut la vie,
rien ne vaut la vie.
Tristan Malavoie et sa chanson « La vie ne vaut rien ».
Mais rien ne vaut la vie, quand même, faut ajouter ça. « Purge chez Juste pour rire », c'est un article de Katia Gagnon et Stéphanie Vallet pour amorcer cette portion culturelle. À 24 heures de la conclusion de l'achat du groupe Juste pour rire, JPR, par ICM Partners, Bell et Evenco, une purge a pris place hier dans les bureaux de JPR. Selon nos informations, au moins 7 membres de la haute direction ont été congédiés, dont Luce, Lucie, Constance et Martine Roson, les sœurs de l'ancien PDG Gilbert Roson. Celle qui avait remplacé M. Roson à la tête du groupe, Guylaine Lalonde, serait également passée à la trappe, ainsi qu'Alain Cousineau, qui occupait le poste de vice-président, et Bruce Hills, qui dirigeait le pendant anglophone du festival Juste pour rire. Toujours selon nos informations, ces licenciements avaient été fortement suggérés par les partenaires québécois d'ICM, Bell et Evenco. On trouvait que la masse salariale de la haute direction de JPR, Juste pour rire, était trop élevée. Certains salaires étaient, estimait-on, nettement au-dessus de ce qui se paie dans l'industrie. Les deux partenaires québécois en auraient fait une condition pour conclure la transaction. Personne chez Evenco, Bell ou ICM Partners n'a voulu commenter les congédiements survenus hier. Les cadres qui ont perdu leur emploi ont aussi préféré ne pas faire de déclaration à la presse. Alors, j'en ai parlé hier, il y a Luc Boulanger qui écrit un article intitulé « Un acteur à la recherche de la vérité ». Interprète virtuose, aussi à l'aise chez Molière que chez Beckett ou Pinter, dernier des pionniers du Nouveau Monde, Gabriel Gascon est mort hier matin à l'âge de 91 ans. Il était malade depuis quelque temps et avait à regret cessé de jouer depuis 6 ans. Il avait le théâtre dans la peau, illustre le metteur en scène Denis Marlowe. C'était un homme de troupe avec une grande qualité de présence et d'écoute. J'ai beaucoup appris en travaillant avec lui. Comme acteur, Gabriel ne cherchait pas à épater la galerie. Il cherchait toujours la vérité. Avec sa disparition, il ne reste que Monique Miller comme témoin de la naissance du Théâtre du Nouveau Monde. C'est une grande perte pour nous, car on a l'impression de perdre un fondateur, affirme Lorraine Pintal, directrice du TNM. Acteur charismatique et chevronné, séduisant sur scène comme dans la vie, Gabriel Gascon a fait partie de la distribution de la pièce inaugurale de la compagnie de répertoire L'Avare en 1951. Le jeune premier y a incarné Cléante aux côtés des Jean Gascon, Jean-Louis Roux, Jeannine Suteau et Denise Pelletier. Le comédien donnait la réplique à Monique Miller qui avait 17 ans à l'époque. L'histoire le relie au TNM. Même s'il n'est pas officiellement l'un des fondateurs, il reste qu'il était le frère de Jean. Une famille de 14 enfants très impliqués dans le théâtre à Montréal. Jean faisait beaucoup travailler Gabriel, qui a établi une relation de sympathie naturelle avec le public d'ici. Monique Miller se souvient avec tendresse de son compagnon dans l'Avare. Il y avait une part de mystère en lui. Il était davantage dans l'écoute que dans les confidences. C'est peut-être ce qui a fait de lui un bon interprète. Comédien élégant, à la voix profonde et grave, Gabriel Gascon était à la fois fantasque, léger, séducteur, mais aussi intense, défricheur et complexe. Il adorait ses 7 enfants, qu'il avait eus de 3 femmes différentes. Car c'était un homme qui adorait les femmes, comme tous les garçons Gascon, dit la comédienne Nathalie Gascon. Elle se souvient du grand plaisir qu'elle a eu à jouer avec son oncle sous la direction de Jean-Pierre Onfort à l'Espace Go. Au début de sa carrière, le succès de son aîné, Jean, lui a toutefois fait de l'ombre. Ce qui explique ses 2 exils en France. La première fois pour 2 ans et la seconde pour 15, dans l'espoir de se faire un nom à Paris. Il se joindra à la troupe du Théâtre national populaire de Jean Villard et jouera des classiques pour de grands metteurs en scène. Il a d'ailleurs laissé son accent québécois sur les rives de la Seine. Il n'a jamais été capable de le retrouver ensuite, note Nathalie Gascon, tout comme mon père. Hors du théâtre, Gabriel Gascon a joué au cinéma et à la télévision. Il a prêté ses beaux traits au personnage d'Alexis dans Les belles histoires des pays d'en haut. Guy Provost l'a remplacé dans ce rôle au bout de 9 saisons. Gabriel Gascon s'animait d'une façon différente en parlant de théâtre. Il avait toutes sortes de souvenirs qu'il ramenait au théâtre, confiait la réalisatrice Sylvie Groux à la presse à la sortie de son documentaire « La passion selon Gabriel » sur la vie professionnelle et personnelle de l'acteur qui était aussi son oncle. Dans la vie, Gabriel était toujours entre le réel et l'illusion. Il semblait flotter dans l'espace. On avait toujours l'impression qu'il était dans son imaginaire. Le comédien a connu une relation marquante avec le metteur en scène et directeur du théâtre Ubu, Denis Marlot. Son travail avec l'homme de théâtre de 30 ans, son cadet, a été important. On peut parler ici d'admiration mutuelle portée par une belle complicité artistique et une vision du théâtre pour laquelle le texte de Beckett à Bernard, en passant par Maeterlinck, est à la source du spectacle. Son travail avec Marlot est un moment charnière dans sa vie. C'est comme si Gabriel était devenu un très bon vin qui a vieilli de manière majestueuse, a dit Lorraine Pintal. Les deux hommes se tenaient en haute estime et ont connu le succès à Montréal, au Québec et en Europe avec des pièces comme Maîtres anciens et Nathan le sage, présentées dans la cour d'honneur du Palais des Papes au Festival d'Avignon en 1997. Sublime Crap dans la dernière bande, aussi sous la direction de Marlot, Gascon y ressassait les souvenirs enregistrés du vieil homme amer de la pièce de Beckett. « Viens d'écouter ce pauvre petit crétin pour qui je me prenais il y a 30 ans. Difficile de croire que j'ai été con à ce point-là. » Une citation. Voilà Gabriel Gascon en entier, dans une seule réplique. Grave et fantasque, et toujours dans la vérité. Texte de Luc Bélanger, écrit avec la collaboration de Daniel Laurent. Alors je reprends. Texte de Luc Boulanger, écrit en collaboration avec Daniel Roland et André Duchesne. Les Québécoises Brigitte Boisjoli, Claude Pelgag et Quinn K font partie des artistes qui se produiront à Ottawa pour la Fête du Canada le 1er juillet prochain. Les vedettes des spectacles du midi et du soir sur la colline parlementaire ont été annoncées hier et incluent le groupe Arkells, les chanteuses Light et Ruth B et l'artiste Word 2.0 Bougat. Andréanne Amalette, Charlotte Cardin, La Bronze et Jacobus donneront pour leur part des prestations au parc Major's Hill, dans le cadre des deux jours de festivités, les 30 juin et 1er juillet. Les femmes inspirantes, les peuples autochtones et les athlètes olympiques et paralympiques constituent les thèmes de cette édition. Yannick Nézet-Séguin a signé un contrat d'exclusivité avec le prestigieux label allemand Deutsche Grammophon, directeur musical de l'Orchestre de Philadelphie et de l'Orchestre du Metropolitan Opera dès septembre officiellement. Directeur artistique et chef titulaire de l'Orchestre métropolitain de Montréal, le maestro québécois avait déjà enregistré plusieurs albums sous étiquette Deutsche Grammophon au cours de cette décennie. L'entente avec l'artiste est maintenant exclusive. On indique qu'il enregistrera un vaste éventail d'œuvres symphoniques et d'opéras avec les différents ensembles auxquels il est associé. Cette entente a été rendue publique à Hambourg hier à l'occasion d'une escale d'une tournée de l'Orchestre de Philadelphie dans 9 villes d'Europe et d'Israël.
Mes bras désolés, un peu comme des chiens. Je promets, je promets que la journée qui s'en vient flambe en neuve. Je promets que la journée qui s'en vient flambe en neuve. Je promets que la journée qui s'en vient flambe en neuve. Je promets que la journée qui s'en vient flambe en neuve.
Avec podcast, la journée qui s'en vient est flambant neuve. Ça, évidemment, c'était le nom, le titre de la chanson.
Allons-y avec les sujets libres. Jimmy Pelletier réussit l'impossible. Le paraplégique de 41 ans atteint le sommet du Kilimandjaro le 24 mai. En s'attaquant à l'ascension du Kilimandjaro, l'athlète paraplégique Jimmy Pelletier savait que le défi était colossal, mais il n'aurait jamais pensé qu'il le serait à ce point. Après avoir eu peur de mourir à plusieurs reprises et vu trois de ses cinq compagnons d'ascension, dont sa conjointe Manon Bélanger, abandonner avant la fin, Pelletier a atteint le sommet de l'Afrique le 24 mai dernier. C'est un article de Kevin Dubé, c'est dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Installé sur un vélo de montagne adapté à trois roues et aidé par quatre porteurs ou sherpas, il est devenu le deuxième dans l'histoire à atteindre le sommet de l'Afrique dans de telles conditions. Mais ce ne fut pas de tout repos. Les quatre premières journées se sont déroulées selon les plans pour Pelletier. Selon au tableau, l'un de ses partenaires, Marc Provost, a dû abandonner au terme de la troisième journée en raison de problèmes de santé. L'homme de 77 ans tentait d'atteindre le sommet du Kilimandjaro pour la septième fois de sa vie. C'est toutefois lors de la cinquième et dernière journée qu'ils ont compris ce qu'était vraiment l'ascension de cette montagne. On a commencé et les côtes avaient une pente d'environ 40 %, se souvient Pelletier, joint quelques minutes après qu'il a débarqué à Montréal hier soir. Il jure d'ailleurs que les quatre Sherpas avec qui il a voyagé ont été des anges durant ce périple. Ce sont des machines. Ils sont vaillants, ils ont été là pour moi, ils chantaient et n'arrêtaient pas de me dire qu'ils m'amèneraient au sommet du Kilimandjaro. Ces derniers ont d'ailleurs mis toute la gomme lors de la dernière journée. Malgré le froid, les accumulations de neige de plus en plus importantes et les dénivelés atteignant parfois 70 %, ils ont continué à aider Pelletier dans sa quête. À un moment donné, j'avais perdu mes compagnons et j'étais seule derrière avec les quatre Sherpas et le guide. Ça devenait de plus en plus difficile puisqu'ils devaient me tirer dans la neige, se rappelle-t-il. Puis, il aperçoit soudain sa conjointe Manon Bélanger et France Gaboury revenir vers lui. Victime du mal d'altitude, Madame Bélanger doit faire marche arrière et retourner au campement. Là, on a eu de grosses émotions. On n'était qu'à 400 mètres du sommet et elle voulait vraiment être avec moi en haut, ajoute-t-il, ému. Malgré tout, pas question de renoncer. Pelletier demeure décidé à aller rejoindre Jonathan Légaré et Hugues Leblanc au sommet. Le reste, il a été rough en tabarnouche. Il y avait des grosses roches et des plateaux de neige. On devait zigzaguer à travers ça. Il fallait qu'ils me tirent parce que je ne pouvais pas rouler là-dedans. À un moment, ils m'ont renversé sur le côté sans le vouloir. Je te jure, j'ai vraiment manqué tomber dans une crevasse et mourir. À partir de ce moment, je n'ai jamais eu peur comme ça de ma vie. Je n'avais pas le contrôle de mon corps à 100 % et ma vie était entre les mains de ces gars-là. Il parviendra tout de même à atteindre le premier sommet du Kilimandjaro, le point Gilman's, après plus de 12 heures passées sur son vélo. Quand je suis arrivée, je n'avais pas d'émotion. Je les avais eues plus bas. On devait redescendre et le soleil se couchait bientôt. Je me suis dit, je vais mourir ici. Mais il est redescendu et il avoue, une semaine plus tard, ne pas réaliser encore complètement l'ampleur de son accomplissement. Heureux et fier de l'avoir réalisé, il assure que ce genre de périple en vélo de montagne s'est terminé pour lui. « Je ne peux pas interdire quelqu'un de le faire, mais c'est un pensez-y bien. Je savais que ce serait vraiment dur, mais je ne pensais pas que ce serait surhumain comme ça. Il faut vraiment que tu sois fort entre les deux oreilles. » Alors voilà, Jimmy Pelletier réussit l'impossible. On a des photos à l'appui. On le voit sur son vélo de montagne adapté, Jimmy Pelletier qui a atteint le sommet du Kilimandjaro vers 18h45 le 24 mai. Tout au long de son périple, il a été accompagné d'un guide et de quatre Sherpas qui l'ont aidé à atteindre le sommet du Kilimandjaro. Il a vu plusieurs paysages durant son ascension. Lors de la quatrième journée, il avait l'impression de rouler sur Mars. Dans le Journal de Montréal encore, maintenant on parle de bouffe. 5 endroits où manger les meilleurs guédis au homard, communément appelés des lobster rolls. Ça, c'est moi qui ai ajouté ça. Pas besoin de planifier une escapade dans le Maine pour pouvoir déguster de savoureuses guédis au homard. C'est Mélodie Lamoureux qui signe l'article. À Montréal, de nombreux établissements servent des guédis de homard tellement bonnes que vous aurez l'impression d'avoir les deux pieds dans le sable. Mathieu a sorti son crayon et son papier pour prendre des notes. Voici donc 5 adresses à garder en tête quand vous avez envie d'une guédille sans quitter la ville. Le Ice House, Avec ses tables recouvertes de papier brun et sa jolie terrasse, le Rice House est une belle adresse où savourer du poulet frit, mais également des guédilles lorsque c'est la saison. Profitez-en pour commander un bon verre de bière pour accompagner votre repas. Alors, le Rice House est situé au 51 rue Roy-Est. Lucille's Oyster Dive. Non, on n'est pas dans le Maine aux États-Unis, même si les noms des restos sont en anglais. Situé dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, c'est un arrêt obligatoire. Si vous avez envie d'une expérience typique, vous pourrez manger des fruits de mer frais et évidemment des guédis au mort. Le Lucille's possède aussi un food truck, camion de cuisine de rue, qui se promène partout à Montréal, 5669 avenue de Monkland, au pied de cochon. S'offrir un repas au pied de cochon est une chose à faire au moins une fois dans sa vie. La cuisine du terroir de Martin Picard vous fera vivre une expérience gastronomique unique. Si vous aviez envie d'une guédille de homard de luxe, c'est évidemment là qu'il faut vous rendre puisque leurs guédilles sont servies avec du foie gras. 536 avenue du Lutte-Est. Move Box. Situé près du bord de l'eau dans le vieux port, ce camion de rue est l'endroit idéal où manger une guédille sur le pouce. Les chaudrées de palourdes sont aussi savoureuses. Commandez-vous donc un bon lunch et partez explorer les joies du Vieux-Montréal. Confidence, j'y vais à chaque année. C'est vraiment un endroit qu'il ne faut pas manquer. Le Move Box, 360 rue de la Commune Ouest. Le Monopole, cette charmante adresse située près de Griffintown, est à la fois une buvette et un café. Le design magnifique de l'endroit attire d'ailleurs de nombreux adeptes de la photographie culinaire. Outre ses brunchs et son menu alléchant, le Monopole sert parfois une guédille de homard lorsque c'est la saison. Il faut savoir que le menu de l'établissement change pratiquement toutes les semaines. Vaut mieux vérifier avant d'y aller. 782 rue Wellington. Tu me fais rire encore, Mathieu. Vous me faites rire, c'est vrai, on se vous voit à la radio. Alors, je lui ai demandé s'il voulait que je lui laisse le cahier avec les adresses. Il m'a demandé si c'était, en bon français, scratch and sniff. Alors, voilà, vous savez tout, hein? On est transparents, nous, à Canal M. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci, Mathieu. T'es ici à la mise en onde et au choix musical. Et je vous retrouve pour la dernière de la saison de l'émission Les Paractualités en ce 31 mai 2018. À tout de suite.